Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Noëlla Louzi Toukabambi à la présentation.
Le calme revient progressivement depuis les débuts de cet après-midi dans les camps des déplacés situés à Mugunga, dans l'ouest de la ville de Goma. Depuis tôt ce matin, des affrontements dans la région de Rusayu, dans le parc des Virunga, territoire des Niragongo, ont fait paniquer les déplacés de guerre vivant dans ces différents camps. Ces affrontements ont opposé d'un côté les FRDC et de l'autre les Wazalendo et FDLR. Bilan, 3 morts selon plusieurs sources. La cause de ces accrochages n'est pas connue et l'armée congolaise n'a pas communiqué sur cette situation. Le tout premier décès dû à la variole de singe ou monkeypox a été enregistré il y a quelques jours dans la zone de santé de Kiondo dans le territoire de Beni. 5 zones de santé parmi les 17 que compte le Grand Nord sont en effet déjà touchées par cette maladie. Du 22 au 29 septembre, c'est la semaine du cœur. Dans ce journal, nous allons recevoir le docteur Yves Lubenga. Il est médecin cardiologue. Il va s'entretenir avec Blaise Shindani Kambala. Bonsoir à tous. Accalmie est relative dans les camps de déplacés situés à Mugunga ainsi que vers les collines de Rusayu au nord Kivu où des affrontements ont opposé ce jeudi très tôt les FRDC au Wazalendo et FDLR. Plusieurs sources dans la région parlent des morts et des blessés parmi les déplacés ainsi que dans les rangs des Wazalendo. L'armée congolaise, elle, n'a toujours pas communiqué sur cette situation. Sifa Magoro.
D'après plusieurs sources dans la région, au moins 3 morts et une vingtaine de blessés ont été enregistrés parmi les déplacés du camp de Lushagala Extension, situé à proximité de la zone des affrontements. Ces affrontements se sont déroulés à proximité des déplacés, notamment du site de Rusayu, de Baraka et de Samsam. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital Sebekandosho, tandis qu'une fillette de 6 ans aurait succombé de ses blessures. Les déplacés qui ont fui ce matin se seraient dirigés vers Minova, Sake et Goma, rapportent nos sources. Ces accrochages entre les FARDC contre les Wazalendo et les FDLR auraient commencé depuis mardi dernier, d'abord vers Sake, puis à Chovu et ce matin à Rusayu, dans le parc de Virunga, en territoire de Niragongo, affirment nos sources. Difficile jusqu'ici de préciser la cause de ces affrontements. Tous nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Restons au nord Kivu. Le discours du chef de l'État et président de la RDC hier mercredi du haut de la tribune des Nations Unies a été largement suivi par les habitants et différemment interprété par les acteurs sociopolitiques de la province. Gabriel Wamenya a recueilli leurs avis.
Pour par exemple les partis politiques Engagement Citoyen pour le Développement et SIDE de Martin Fayulu, le discours du président Félix Tshisekedi est un rendez-vous raté, affirme le député honoraire Mouindo Kasekwa, cadre de l'SIDE.
Je trouve que le discours prononcé par Monsieur Félix hier à la tribune des Nations Unies, c'est un rendez-vous manqué. La question des FDLR sert d'alibi pour le Rwanda depuis la guerre de la guerre du RCD, du CNTP jusqu'à ce jour, et que cette question des FDLR nous a été amenée par les Nations Unies.
Pour la société civile du Nord Kivu, thématique et bonne gouvernance, les pays membres de la région doivent respecter les engagements civils entre eux, relève ici Étienne Kambalé.
Nous pensons qu'il a bien fait. La cote qu'on pourrait lui accorder, c'est 10, c'est 3. C'est bien d'avoir tapé sur la table, c'est que le Rwanda n'est pas un partenaire sérieux pour respecter ses engagements.
De son côté, l'IDPS salue les discours mérités du chef de l'État, dit ici Georges Yalala.
Il a presque touché tous les points, comme par exemple le point de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda.
Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Début ce jeudi par la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est de l'examen des requêtes de la RDC contre le gouvernement du Rwanda au sujet des conflits présumés au Nord Kivu. La RDC accuse le Rwanda d'actes d'agression qui porteraient atteinte à sa souveraineté, à son intégrité territoriale, à sa stabilité politique et à son indépendance. La RDC soutient que les actions du Rwanda ont conduit à d'importantes violations des droits de l'homme dans la région du Nord Kivu. Sur le compte X de la Cour de justice de l'EAC, le procureur général du Rwanda conteste la décision de la RDC concernant des documents déposés au tribunal qui n'avaient pas été traduits du français vers l'anglais, langue officielle de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le procureur général du Rwanda demande au tribunal une ordonnance de radiation de l'affaire. Dans le chapitre de la santé, notez que 5 zones de santé parmi les 17 que compte le Grand Nord Kivu sont déjà touchées par la variole de singe ou monkeypox. Dans une communication à la presse hier mercredi, la division provinciale de la santé, antenne de Butembo, rapporte que la zone de santé de Kiondo, dans le territoire de Beni, a enregistré il y a quelques jours le tout premier décès dû à cette maladie. Le point avec Sadiki Aboubakar.
Dans le territoire de Beni, les zones de santé touchées sont celles de Mutuanga avec un cas et la zone de santé de Kiondo avec deux cas dont un décès. Dans le territoire de Lubero, il y a la zone de santé d'Alimbongo avec un cas et celle de Mangurejipa également un cas. Dans la ville de Butembo, la zone de santé de Katwa enregistre également un cas de monkeypox. Ces statistiques portent sur la période allant jusqu'au 15 septembre dernier, rapporte Damoulou Loavo, le chargé de communication de l'antenne de Butembo de la division provinciale de la santé. La même source affirme que jusqu'ici, aucune zone de santé du Grand Nord Kivu n'a reçu aucune dose de vaccin contre la monkeypox. Dans l'ensemble de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, seules les zones de santé de Goma et Karisimbi en ont reçu au regard du nombre des cas notifiés. Dans le Grand Nord Kivu, les zones de santé non encore touchées par l'épidémie multiplient les activités de surveillance, rapporte le docteur Michel Tosalisana, le médecin chef de la zone de santé de Beni. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Mettons le cap vers la province du Tanganyika pour parler des bâches pour les sinistrés de l'incendie du village Lengwe dans le territoire de Nyunzu. Près de 470 personnes sont concernées par ce don de l'association dénommée Umoja Ninguvu. Se confiant à Radio Okapi, le coordonnateur provincial de cette association, Nathan Mugisho, précise que le mardi de cette semaine, le feu de brousse a entraîné l'incendie de près de 100 maisons et a fait une vingtaine de blessés. Il lance un appel aux autorités provinciales et à d'autres structures pour venir en aide à ces sinistrés. Nathan Mugisho s'exprime au micro de Paula Munanga.
Parmi ces 470 personnes, nous avons 82 hommes adultes, 96 femmes adultes, 293 enfants. Notons qu'il y a 23 personnes qui sont sérieusement blessées par le feu et qui sont internées au centre de santé de Lengwe. L'association Umoja Ninguvu a dépêché immédiatement un long de bâches pour assister les familles qui sont touchées et chaque famille pourra avoir de quoi se couvrir par à travers l'aide que venait de faire l'association Umoja Ninguvu. C'est que nous saluons parce que c'est un acte de bienfaisance. Au bénéfice des sinistrés, premièrement, nous appelons le gouvernement provincial de pouvoir intervenir par à travers son ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, d'apporter de l'aide nécessaire à toutes ces personnes qui sont touchées par cette catastrophe. Ces personnes sont sans abri. Si le gouvernement n'arrivait pas à donner ce qu'il faut, on pourra faire des plaidoyers auprès des structures capables de venir en aide à ces personnes.
Dans la province de la Tchopo, plainte des camionneurs sur le mauvais état de la route nationale numéro 4 reliant la Tchopo aux provinces voisines de l'Ituri et du Nord Kivu. Les véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour atteindre leur lieu de destination dans le délai nécessaire. Au lieu de deux jours, pour les grands véhicules de transport des marchandises ou les bus de transport en commun de Bunia à Kisangani, ces véhicules parcourent le même trajet en plusieurs semaines. Suivez plutôt le témoignage d'un convoyeur de bus de transport en commun. Ses propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
On vient de Bunia, on a fait déjà 15 jours à la route. La route est praticable, vraiment, ça ne va pas. Ici, nous sommes déjà au niveau de 170 km de Kisangani. Il n'y a pas de passage. On a fait 3 jours sur place, nuit blanche, sans manger, sans même boire de l'eau, parce qu'il n'y a pas de source d'eau potable. Mais nous sommes ici, on cherche les moyens de sortir. On ne sait pas quand on y arrivera à Kisangani. Mais ce qui m'a fort étonné, on fait toute formalité que le gouvernement nous demande, on s'acquitte de ça tous. Mais on paye normalement ce qui concerne la route, on a payage route. Même à partir de l'Ituri, même Tchop, même chose, on paye $50 en Ituri, $52 plutôt, Tchop, on paye $50. Mais on ne voit pas si cet argent va où. Toutefois, ce que nous demandons, que le gouvernement ait pitié des populations pour asphalter encore la route. Si la route est bonne, je pense que tout va bien.
Baisse sensible du prix du maïs sur les différents marchés de Mbujimayi. La mesurette de 3,5 kg qui se vendait à 7 500 francs congolais coûte actuellement 5 000 francs. Cette baisse de prix est liée à la vente au public des 6 000 tonnes de maïs produits par le service national à Kanyamakasese. Le commandant du service national, le général-major Kasongo Kabwik, a lancé officiellement cette vente le mardi à Mbujimayi. Un reportage de Esther Ndalafina.
La vente de maïs produit par le service national s'effectue en Mbujimayi dans 5 dépôts répartis à travers la ville. Il y a un dépôt ouvert à Mtcha dans la commune de Dibindi, un dépôt sur l'avenue Chalamwana, un autre au marché Benakabinda, un autre encore sur l'avenue qui mène vers le parquet et sur la route du marché Ouetrafa appelé communément Simis. Plusieurs habitants s'approvisionnent en maïs en suivant l'ordre établi par le service national.
Nous allons manger beaucoup de foufou, merci au service national. Nous avons acheté les sacs à 82 500. C'est moins cher. Au marché Bakwadjanga, le méca coûte 7 500 francs. Lorsqu'on fait les calculs ici, c'est comme si on achetait à 5 000 francs. C'est moins cher, merci beaucoup.
Au cours de la cérémonie de lancement officiel de la vente publique, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik a demandé à la population de remercier le chef de l'État pour les moyens mis à la disposition des services nationaux. Il prévoit de multiplier encore la production de maïs l'année prochaine. Signalons que la mesurette de maïs qui s'est vendue à 7 500 francs a du coup baissé à 5 000 francs congolais. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les experts de la Cour des comptes sont appelés à renforcer les capacités des députés nationaux en matière d'élaboration et d'exécution du budget de l'État, ainsi que sur le contrôle des dépenses publiques. L'appel vient du président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a échangé hier avec les animateurs de la Cour des comptes conduits par le premier président Jimmy Munganga Ngwaka. D'après le premier président de la Cour des comptes, cet exercice permettra aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Michel Kifindangoy.
Afin de permettre aux députés nationaux d'exercer un contrôle efficace de la gouvernance publique, les experts de la Cour des comptes s'apprêtent à former les élus du peuple sur demande du président Vital Kamerhe. En quoi va consister cette formation? Jimmy Munganga, premier président de cette Cour.
La Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Nous sommes le bras séculier du Parlement. Dans ce contrôle-là, parce qu'à la Cour des comptes, on trouve des techniciens. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous spécialistes en finances publiques. Mais à la Cour des comptes, on n'y trouve que des experts en finances publiques. La Cour a été invitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nos échanges ont porté sur... j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment. Et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a invité la Cour des comptes à travailler de commun accord avec la commission ECOFIN pour préparer ces différentes séances de renforcement des capacités. Vital Kamerhe a cependant promis son implication pour veiller aux intérêts de la Cour des comptes dans les discussions sur la loi des finances 2025 qu'ils vont examiner bientôt.
Le département du travail des États-Unis d'Amérique a décidé d'ajouter le cobalt de la RDC sur la liste 2024 de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. En réaction, la société civile de la province du Lualaba dit prendre acte de cette décision, mais elle remet tout de même en cause l'aspect relatif au travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt en RDC. Dans un communiqué publié hier, la société civile de la province du Lualaba, à travers la plateforme Comprendre et agir dans le secteur minier industriel et artisanal, CASMIA, invite le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions d'exploitation minière et sauver ainsi son cobalt des risques qu'il court après cette décision américaine. On écoute Shadrach Moukad, coordonnateur national de la plateforme CASMIA, au micro de Jean Gandou.
Souvent, nous considérons différents rapports qui sont envoyés sur la présence des enfants que ce sont des rapports qui ne reflètent pas la vraie réalité. Mais quant au travail, à l'exploitation, au non-respect des droits des travailleurs, aux travaux forcés soumis aux agents dans les entreprises minières, c'est une réalité parce que la société civile a toujours décrié ce traitement des travailleurs dans les sociétés, particulièrement les sociétés détenues par des Chinois. Il revient à l'État congolais de s'investir totalement pour que la loi sur l'emploi, le travail et la prévoyance sociale soit respectée par toutes ces entreprises. Il faudrait qu'un travail des titans qui fait respecter les droits des Congolais soit fait à travers le ministère de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Lorsque nous y mettons, nous aussi, la sensibilisation pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la chaîne d'approvisionnement en cobalt, le cobalt de la RDC sera retiré de cette liste. Et nous devons tous ensemble, et l'État, et les opérateurs miniers, et nous, la société civile, travailler des concerts pour que nous puissions améliorer les conditions de travail pour l'intérêt de notre économie nationale.
Actualité internationale.
La France et les États-Unis, suivis des pays occidentaux et arabes, ont appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours entre Israël et le Hezbollah libanais à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, une proposition qui a rapidement été écartée par Israël. Ce jeudi, des nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu sur les Libans. Selon Israël, il s'agit d'attaques contre des cibles militaires du Hezbollah. Notez que les bombardements ont fait plus de 600 morts depuis lundi, dont de nombreux civils, et ont jeté plus de 90 000 personnes sur les routes au Liban, selon l'ONU. Plus de 22 000 d'entre elles sont entrées en Syrie, ont indiqué des sources de sécurité du Liban.
L'invité.
Du 22 au 29 septembre, c'est la semaine du cœur. Les spécialistes en cardiologie sensibilisent sur les pathologies cardiovasculaires. Le thème retenu pour cette année 2024 est l'activité sportive et les maladies cardiovasculaires. Quels sont les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires? Quelles sont les mesures préventives les plus efficaces pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires? Pour répondre à ces questions, Dr Yves Lubenga, médecin cardiologue, s'entretient avec Blaise Shindani Kambala. Suivez.
Bonjour docteur Yves Lubenga.
Bonjour monsieur Shindani.
Vous êtes médecin cardiologue et c'est la semaine du cœur. Dites-nous docteur, c'est quoi les maladies cardiovasculaires?
Merci pour votre question. Les maladies cardiovasculaires sont l'ensemble de pathologies intéressant les vaisseaux sanguins et le cœur. Pour vraiment faire simple, il s'agit des pathologies ou des affections nosologiques qui ont comme cible les vaisseaux sanguins et le cœur comme moteur, en fait.
Quels sont les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires?
Il existe des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque non modifiables sont ceux qui ne peuvent être affectés par aucun traitement. Il s'agit notamment de l'âge, il s'agit notamment du sexe. On sait que plus on monte en âge, plus émergent les pathologies cardiovasculaires. On sait que plus on est un homme, plus on est enclin à développer des pathologies cardiovasculaires, un peu plus que la dame ou l'individu de sexe féminin. Lorsque celle-ci, en revanche, atteint le seuil de la ménopause, okay, la prévalence semble équivaloir à celle de l'homme dans l'émergence des pathologies cardiovasculaires. À côté de ces facteurs de risque non modifiables, il existe des facteurs modifiables. Le tabagisme, qui est une addiction, induit la genèse des pathologies cardiovasculaires et il suffit de l'arrêter pour qu'on puisse obtenir un phénomène inverse. C'est un peu pareil pour l'alcool, quand c'est consommé de manière chronique et abusive. On peut aussi citer l'obésité, on peut citer la sédentarité, on peut citer l'hypertension artérielle, on peut citer les troubles glycémiques comme le diabète sucré. En fait, tout ce que je viens d'énumérer font partie des facteurs de risque de survenue des maladies cardiovasculaires.
Quelles sont les mesures préventives les plus efficaces pour réduire les risques des maladies cardiovasculaires?
Deux grandes mesures préventives efficaces, en dehors de celles que j'ai énumérées précédemment, c'est d'abord la promotion de l'activité physique. L'activité physique aujourd'hui, et les études sont nombreuses et attestent le fait que le fait de pratiquer régulièrement l'activité physique favorise, d'une part, la réduction de l'émergence des maladies cardiovasculaires. Donc, nous agissons en prévention des maladies cardiovasculaires. Prévention primaire pour ceux qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire. En prévention primaire aussi pour ceux qui font de l'hypertension artérielle, par exemple. Ça constituera un traitement. Et en prévention secondaire pour ceux qui ont déjà fait des complications. Le fait de pratiquer de l'activité physique les met à l'abri de récidives de, des pathologies cardiovasculaire. En dehors de ça, c'est le régime alimentaire et le style de vie. Le style de vie, c'est éviter tout ce qui est addictif, le tabac, l'alcool. Sous le plan alimentaire, c'est la promotion d'un régime alimentaire méditerranéen que l'on peut...
Voilà, nous y arrivons, docteur. Oui. Quel rôle joue l'alimentation dans la prévention. Quels aliments sont à privilégier et lesquels sont à éviter?
Les légumes, les fruits sont connus pour être protecteurs du système cardiovasculaire chez l'humain. C'est pour ça qu'il est encouragé régulièrement d'en consommer. Et nous le disons très souvent lors de nos consultations, la consommation de poissons frais est protecteur sur le système cardiovasculaire parce que ça apporte un bon cholestérol ainsi que des oméga 3 protecteurs. En revanche, la consommation des viandes rouges ainsi que d'autres types d'aliments n'apportent pas ce bénéfice-là. Donc, ils sont soit neutres, soit négatifs pour un sujet dans la prévention des pathologies cardiovasculaires.
À quelle fréquence doit-on effectuer des bilans de santé pour détecter ces maladies à un stade précoce?
Sur le plan cardiovasculaire, nous encourageons nos patients à faire des check-up cardiovasculaires pour ceux de sexe masculin à partir de l'âge de 40 ans. En fonction du bilan initial, on pourra déterminer la fréquence à laquelle ils vont revenir pour des bilans ultérieurs. C'est-à-dire que si le bilan initial est strictement normal, on peut le faire tous les 2-5 ans. Si en revanche ce bilan initial est pathologique, on va raccourcir cet intervalle-là entre 6 mois et 1 année. Chez les dames, en revanche, on préconise de faire des check-ups à partir de 45 ans et au-delà, parce que l'on sait que cette période-là correspond à peu près à la période de la ménopause. Et donc, cette période-là fait que la femme a une prévalence quasi équivalente de survenue des maladies cardiovasculaires que l'homme. Et donc, à partir de cet âge-là, elle va suivre le même modèle, check-up initial et check-up ultérieur, en fonction des résultats du bilan initial.
Docteur Yves Loubenga, médecin cardiologue, merci beaucoup.
Merci, monsieur Chinadi.